Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 13 mai 2024 et cette chronique vous est présentée par Jean-Louis depuis les studios de Radio Libre en Périgord, en direct bien évidemment. Aujourd'hui, je vais commencer par aborder une question qui est importante, c'est la dérive autoritaire, la dérive d'intolérance à laquelle on assiste actuellement, à travers deux exemples. Un premier exemple sur lequel je vais passer rapidement parce qu'il a fait la une, le buzz, toute la semaine passée. Il s'agit donc de l'éviction de Guillaume Meurice de France Inter. Et puis, je vais m'attarder plus longuement sur l'exclusion du chercheur Alain Policard du Conseil des sages de la laïcité, moins médiatisé et au moins autant un port aussi important et aussi symbolique de cette dérive à laquelle on assiste. Alors, concernant Guillaume Meurice, bien évidemment, c'est une totale solidarité avec Guillaume Meurice. La liberté d'expression est gravement remise en cause. Et malgré les déclarations qui ont pu être faites par les différentes autorités qui ont prévalu à cette décision, eh bien, il y a eu malgré tout une grève à France Inter hier, une grève pour la défense justement de la liberté d'expression, et que cette grève a eu au moins le mérite de nous éviter d'avoir à supporter les diatribes de Sophie Aram qui ne peut parler de quoi que ce soit, y compris de recettes de cuisine, sans que ça se termine par une attaque à coups de mensonges, à coups de manipulation si besoin, pour condamner à partir de son obsession aussi bien LFI, les différents responsables de LFI et en particulier, donc, Jean-Luc Mélenchon. Ça devient absolument insupportable de ce mélange pervers entre humour et, message politique qui perturbe complètement le type d'émission. On ne sait plus si c'est une émission d'humour ou une émission de politique, de manifestation d'une opinion, ce qui est parfaitement le droit là, de Sophie Aram comme de tout intervenant, c'est pas ça le problème, mais il y a un mélange que je trouve pour ma part gênant et qui relève d'une véritable obsession. Alors, bien évidemment, je ne vais pas réclamer le départ de Sophie Aram, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit simplement de dire les choses et comme tout autre, j'ai la possibilité de m'exprimer de manière totalement indépendante. Alors j'en viens à l'exclusion du chercheur Alain Policard. C'est un texte qui est signé Gilles Manceron, l'historien de la Révolution française, qui présente un article et une tribune collective qui est publiée dans Le Monde du 2 mai dernier. Et donc je vais commencer par lire le texte de Gilles Manceron et ensuite donc cette tribune collective. L'exclusion du chercheur Alain Policard du Conseil des sages de la laïcité, le triomphe de l'intolérance. L'exclusion d'Alain Policard du Conseil des sages de la laïcité est une nouvelle preuve de ce que la laïcité est usurpée par ceux qui s'en réclament en la transformant en prétexte à l'intolérance. Le principe de laïcité sur lequel a été construite la loi de séparation des églises et de l'État de décembre 1905, qui garantit la liberté des citoyens par rapport aux religions, est usurpé par ceux qui veulent en faire en France un instrument d'intolérance et de remise en cause des libertés publiques. L'exclusion du chercheur Alain Policard du Conseil des sages de la laïcité en est une nouvelle preuve. Nous reproduisons ci-dessous la tribune publiée par le quotidien Le Monde, titrée « Un membre du Conseil des sages de la laïcité doit pouvoir exprimer un avis sur l'application de la loi de 2004 ». Dans son édition, datée du 2 mai 2024, et nous précisons les noms des 137 universitaires, chercheurs et chercheuses qui l'ont signé sous le titre d'origine « Le triomphe de l'intolérance, l'exclusion d'Alain Policard du Conseil des sages de la laïcité ». Ajoutons que ce détournement des principes de la laïcité a eu un précédent, puisque, déjà, dans son empire colonial, la France ne les a pas appliqués et les a travestis. Il fallait des règlements particuliers pour que la loi de séparation de 1905 y soit applicable. Or, Il n'y en a jamais eu dans la plupart des territoires de l'Empire et dans ceux où de tels règlements ont existé, en Algérie, à La Réunion, Madagascar et au Cameroun, les décrets pris entre 1907 et 1913 ont, en réalité, vidé de leur contenu les principes de cette loi. Je fais un aparté. Je pense que nous aurons l'occasion, à travers une chronique, de revenir de manière plus détaillée sur cet aspect de la loi de 1905, donc dans ce qui s'appelait à l'époque les colonies. Aux colonies, donc je reprends le texte de Gilles Manceron, la France coloniale voulait garder les cultes sous son contrôle, tout particulièrement les responsables désignés par elle du culte musulman, qu'elle a rémunéré en violation de la loi de 1905 et dont elle a voulu faire des agents de son administration. En Algérie, c'est le courant religieux musulman des oulémas, hostile à la colonisation française, qui a demandé en vain, avec d'autres, l'application de la loi de 1905. Par ailleurs, conformément à la formule de Gambetta, pour qui ni la laïcité ni l'anticléricalisme n'étaient des articles d'exportation, pour reprendre la formule de Gambetta, la politique coloniale a mis entre parenthèses l'opposition métropolitaine entre laïcs et cléricaux et a fortement encouragé officiellement la diffusion du christianisme en contradiction, là aussi, avec la loi de 1905. Le détournement de la laïcité qui est à l'œuvre en France depuis plusieurs décennies et dont l'éviction d'Alain Policard du Conseil des sages de la laïcité est un nouveau symptôme, réédite à bien des égards le détournement grossier de la laïcité et le refus d'appliquer la loi de séparation de 1905 qui avait cours dans l'Empire colonial français. Donc, voici la tribune collective. La laïcité qui doit organiser la liberté devient un prétexte pour l'intolérance. Tribune collective publiée dans Le Monde du 2 mai 2024. Un collectif de plus de 130 personnalités du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche apporte son soutien au sociologue Alain Policard, démis de ses fonctions par la ministre de l'Éducation nationale à la suite de propos rapportés par RFI. La nomination d'Alain Policard en avril 2023 au Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, CSL, avait déjà été l'occasion d'une campagne de la mouvance nationale républicaine afin d'inciter le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Pam Ndiaye, à renoncer à son projet. Mais décidé à valoriser la pluralité des points de vue au sein de l'instance, le ministre n'avait pas renoncé à la décision. Un an plus tard, au prétexte d'un entretien donné à RFI, dans lequel était critiquée l'application de la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école, la volonté de se débarrasser d'une voix dissidente retrouve un nouvel élan. Un ensemble d'initiatives à l'évidence concertées, visant à obtenir son éviction au prix d'une pure présentation fallacieuse de ses convictions, a convaincu la ministre de l'Éducation nationale de mettre fin au mandat d'Alain Policard. Cet acte d'autorité interroge sur l'état des mœurs démocratiques. Une campagne calomnieuse. Conduite par le réseau d'enseignants du secondaire Vigilance Collège-Lycée, collectif auquel appartiennent plusieurs membres du CSL, une campagne de calomnie a recueilli l'adhésion de Vigilance Université, de l'Observatoire des idéologies identitaires, du magazine Marianne et, sur un mode mineur, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Elle a conduit à la publication dans Le Point d'une pétition réclamant l'éviction d'Alain Policard du CSL. Cette campagne a manié outrance et mensonges sans scrupules. Un des membres notoires de la liste Vigilance Université ose écrire « Combien faudra-t-il d'enseignants ou d'élèves assassinés pour qu'une personne nommée par Pap Ndiaye soit écartée par le gouvernement du Premier ministre Attal ?» Un autre, membre de l'Observatoire des idéologies identitaires, autrefois du décolonialisme, fait d'Alain Policard un zélateur du patriarcat islamiste. Bien qu'il s'agisse de calomnie, cela n'a pas empêché la présidente du CSL, Dominique Schnapper, d'écrire une lettre à la ministre dans laquelle elle estimait que les conditions du maintien d'Alain Policard au sein du CSL n'étaient désormais plus réunies. L'idée selon laquelle un membre de l'institution n'est pas autorisé à critiquer la loi a été validée par Mme Belloubet, laquelle a exigé la démission de notre collègue. La seule question est, dès lors, la suivante. Les membres du CSL, en exprimant leurs convictions, se mettent-ils en contradiction avec la fonction de ce conseil ? Par ailleurs, émettre une appréciation critique sur la manière dont sont comptabilisées, par les services du ministère, les atteintes à la laïcité, est-ce manquer au devoir de discrétion ? Le refus du pluralisme. Nous répondons négativement à ces deux interrogations. Une position publique d'un membre du Conseil n'engage évidemment pas le Conseil tout entier du seul fait de la mention de son appartenance à ce Conseil. Si c'était le cas, on trouverait beaucoup à dire à propos de bien des engagements avérés de ses autres membres ou de sa présidente. Doit-on rappeler que le Conseil des sages, citation, « exerce une mission de conseil, d'expertise et d'étude relative à la mise en œuvre du principe de laïcité et à la promotion des valeurs de la République », donc extrait de l'arrêté du 19 février 2021, ce qui en appelle à une pluralité de points de vue permettant au ou à la ministre de pouvoir trancher. Faut-il souligner qu'un expert n'est pas un fonctionnaire d'autorité et qu'il est dès lors supposé garder sa liberté de parole ? Rien, par conséquent, n'empêche un membre du Conseil d'avoir un avis réservé sur l'application de la loi de 2004 et de l'exprimer. On doit même considérer qu'il s'agit là d'un gage de pluralisme de nature à renforcer la légitimité de l'institution. En outre, s'il fallait admettre que le CSL dispose d'une doctrine à laquelle tous ses membres devraient adhérer, où serait-elle fixée ? Et par qui ? En l'occurrence, l'idée que le voile est toujours un signe du prosélytisme religieux qui, aux yeux de certains de ses membres, constitue la doctrine officielle du Conseil, est une position démentie par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Bien que nous souhaitions nous situer avant tout au niveau des principes, nous devons préciser qu'Alain Policard n'a, dans son entretien donné à RFI, aucunement soutenu que le voile islamique était, en soi, un vecteur d'émancipation. Ce serait un postulat aussi absurde que la thèse inverse, selon laquelle il serait en tout temps et en tout lieu un instrument d'oppression. Notre collègue a simplement fait référence à des travaux sociologiques dans lesquels les jeunes filles voilées expliquaient leur comportement, conforme aux prescriptions de leur milieu, par la volonté d'échapper à la pression de ceux, espérant ainsi gagner un espace de liberté. Il se situait donc exclusivement sur le terrain descriptif et non, comme semblent l'avoir cru certains lecteurs, normatifs. Aussi, dénonçons-nous avec la plus grande fermeté l'exclusion de notre collègue et le tort fait à l'institution dont l'image sera considérablement écornée, tant l'éviction d'Alain Policard témoigne d'une volonté d'imposer une vision monolithique et dogmatique de la laïcité. Et suivent donc les signatures des 137 signataires, parmi lesquels, bien évidemment, toute une série de personnalités qui sont, pour certains, effectivement très connues. Voilà. Alors, j'en ai terminé avec ce point sur Alain Policard, et vous retrouverez tous les éléments sur cette affaire sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée, et nous le reprendrons, bien évidemment, sur le site du groupe Frézeler. Alors, avant d'en venir aux autres sujets du jour, je vous propose d'écouter une chanson qui va peut-être être découverte par les plus anciens des auditrices et auditeurs, qui se souviennent sans doute de la chanson de Claude François qui avait été un grand succès. Rassurez-vous, je ne vais pas passer Claude François dans le cadre de cette émission, mais sa chanson « Si j'avais un marteau » avait été un gros succès commercial à l'époque. Et cette chanson, en fait, le texte de cette chanson n'est pas la traduction de la version anglaise qui a été écrite par Pete Seeger. Pete Seeger, qui est l'auteur de toute série de chansons qui ont été autant d'éléments de rassemblement de la jeunesse américaine contre la guerre du Vietnam. C'est un texte qui a été complètement édulcoré, aseptisé, et qui raconte donc l'histoire de ce pauvre gars qui essaye avec son marteau de se construire une ferme, alors que le texte d'origine a une toute autre portée. Alors, la chanson, bien sûr, est en anglais. On pourra peut-être mettre les traductions, d'ailleurs, sur nos différents sites. Donc, je vous propose d'écouter la version Pete Seeger de cette chanson, « Si j'avais un marteau ». On l'écoute. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love.
between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a song, if I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out a warning, I'd sing out love between my brothers and my sisters all over this land. Well, I got a hammer, and I got a bell, and I got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about love between my brothers and my sisters all over this land.
Voilà. Alors nous allons maintenant passer au deuxième sujet du jour, qui est un sujet sur lequel nous aurons à revenir dans de prochaines chroniques, puisqu'il y a toute une campagne qui est engagée à ce sujet-là. Je veux parler de la question de la protection des données personnelles sur un plan particulier, c'est-à-dire celui des apostats, de la protection des apostats. Alors je vais commencer par vous lire une adresse au Parlement européen, et ensuite, je pense qu'on aura le temps d'avoir un premier commentaire qui est exprimé par la Fédération de la Libre Pensée. Adresse au Parlement européen, appel aux citoyennes et citoyens d'Europe et à leurs organisations, non à la rétention des données personnelles par les religions. Donc cette adresse est précédée d'un petit chapeau. À la suite de plusieurs décisions divergentes de cours, tribunaux et autorités de divers pays d'Europe, il apparaît qu'il existe un danger concernant les données personnelles des citoyens détenus par les religions et cultes. C'est pourquoi nous proposons la signature de la pétition ci-dessous qui sera adressée au Parlement européen. Donc voici cet appel. La liberté de conscience et de conviction est garantie dans tous les pays d'Europe par différents textes, constitutions et déclarations de portée nationale ou internationale. Comme d'autres associations, les confessions et les cultes sont autorisés à enregistrer les données personnelles de leurs adhérents pour y effectuer les traitements qui apparaissent pertinents pour les deux parties. Ceci, dans les limites des lois nationales et des engagements internationaux que les pays ont souscrits. La liberté de conscience et de conviction inclut le droit de changer de conviction, par exemple le droit de changer de religion ou de n'en avoir aucune. Toutes les associations et groupements convictionnels, religieux ou non, doivent respecter le même droit, avec les mêmes garanties pour les citoyennes et les citoyens. Elles ne peuvent conserver indûment les données personnelles de celles et ceux qui les quittent. Dans la pratique, plusieurs confessions prétendent continuer à garder le contrôle de ces données, pour des raisons qu'elles estiment légitimes, mais qui renvoient simplement à leur fonctionnement interne. Ainsi, plusieurs confessions chrétiennes refusent d'effacer les données de leurs anciens fidèles, souvent enregistrés dans leur petite enfance, sans leur consentement personnel. Plusieurs de ces cas concernant le baptême catholique ont été soumises aux tribunaux ces dernières années, et quelques-unes sont arrivées jusqu'au plus haut degré de juridiction des pays concernés avec des résultats différents. Par exemple, les tribunaux français et irlandais ont refusé aux anciens fidèles le droit à l'effacement de leurs données personnelles des registres de l'Église catholique, alors que l'autorité belge de protection des données a, elle, ordonné le respect strict du droit commun, c'est-à-dire l'effacement. Les organisations et citoyens sous-signés réclament que toutes les associations cultuelles, quel que soit leur statut juridique propre dans les pays concernés, soient soumises au droit commun, c'est-à-dire l'effacement des données d'une personne qui a quitté une confession du fait de l'exercice de sa liberté de conscience. Ils demandent au gouvernement et aux autorités internationales de prendre les mesures nécessaires pour que cette liberté fondamentale soit préservée. Voilà. Alors ça, c'était donc l'appel lui-même. Et je vous lis maintenant donc une explication de la Fédération nationale de la libre-pensée. Voilà pourquoi la libre-pensée a pris l'initiative d'un appel européen pour la protection des apostats, de tous les apostats, et pour le respect de la stricte égalité devant la loi des hommes entre les églises et les organisations de la société civile en Europe. La libre-pensée d'Europe a pris l'initiative de lancer un appel à signature auprès des associations laïques en Europe sur la question de la suppression des données personnelles dans les registres des baptêmes pour les personnes qui le souhaitent. Appel adressé au Parlement européen. C'est une question fondamentale, celle de la liberté de conscience et de son respect absolu. Imposer à un enfant dès sa naissance d'entrer de force dans une religion, en lui refusant ensuite d'en sortir selon sa libre volonté, c'est la remise en cause d'un principe qui devrait être intangible. Nul ne peut être forcé d'entrer dans une religion, nul ne peut être contraint d'y rester. Ce principe est en théorie garanti par des textes internationaux dont beaucoup se réclament. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme intitulé « Liberté de pensée, de conscience et de religion » stipule que, citation, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. » Fin de citation. Il oblige les États parties à la Convention à respecter et protéger ces libertés qui englobent également l'ensemble des convictions des individus. C'est pourquoi a été adopté et mis en œuvre le Règlement général de protection des données, RGPD, qui permet à une personne de faire effacer toute trace d'appartenance à une structure de la société civile si elle le souhaite. Un enfant n'est pas du bétail dans le Far West, marqué à vie au fer rouge. On peut faire effacer toute donnée au nom du RGPD dans une association, un syndicat, un parti, une obédience maçonnique, mais pas dans une église ? Y a-t-il quelque chose de plus important ? Que de combattre pour la liberté humaine qui refuse que l'on enchaîne l'humanité dans des faits religieux. Une fois que l'on est entré de force dans une organisation criminelle comme l'Église catholique, on ne peut plus en sortir du fait de la volonté de la CNIL et du Conseil d'État, qui, saisis par un citoyen français, ont refusé le principe de cet effacement, en donnant raison à l'Église. Oui, criminel, 300 000 victimes des crimes sexuels du clergé catholique, rien qu'en France, et des millions dans le monde. Et pourquoi ? Parce que cela serait un fait historique. En quoi ce fait est plus historique qu'une adhésion à une association de la société civile, à un syndicat, à un parti, une loge maçonnique ou à la libre-pensée ? Ce n'est pas une question d'archives millénaires ou de documents historiques. Avez-vous entendu parler de l'affaire Thomas Born, citoyen français résidant en Allemagne et à qui l'Église allemande a demandé et obtenu de l'Église française le certificat de baptême pour lui imposer de payer de force l'impôt d'Église alors qu'il avait renié sa foi catholique depuis longtemps. En clair, que vous croyez ou ne croyez pas, vous devez payer quand même l'impôt religieux. En Allemagne, l'Église catholique possède un des deux réseaux d'hôpitaux privés les plus grands. L'autre appartient aux protestants. Les salariés de ces hôpitaux, qui ont renié leur baptême catholique, s'exposent à un licenciement dans ces hôpitaux catholiques. C'est pourquoi, entre autres, le RGPD a été fait pour effacer toute trace d'appartenance passée à une structure quand une personne le demande. À l'heure où l'extrême droite peut arriver au pouvoir en France, où elle l'est déjà dans plusieurs pays d'Europe, appuyée par des églises et les courants religieux intégristes ou pas, ces registres de baptême dans lesquels figurent les noms des apostats est-il insignifiant ? Regardons le passé et l'histoire. La question des registres et des certificats de baptême y a eu une certaine importance, notamment entre 1940 et 1945. Imaginez ce que pourrait faire un pouvoir totalitaire, appuyé par la religion, de registres dans lesquels figurent, noir sur blanc, les noms de ceux qui ont renié leur appartenance à une religion. Il n'y a pas qu'en Iran que cela pourrait avoir des conséquences importantes, voire dramatiques. Aucune religion révélée ne tolère l'apostasie. Toutes celles qui en ont les moyens seront tentées de constituer des listes d'apostats. L'Église catholique se sent assez forte pour le reconnaître, ce faisant. Elle pose un précédent qui menace directement les apostats issus d'autres religions. À l'inverse, si nous obtenons l'obligation pour l'Église d'effacer de ses registres les noms des personnes baptisées, nous faisons consacrer le droit à l'apostasie dans la jurisprudence au bénéfice non seulement des ex-catholiques, mais aussi des ex-protestants, ex-juifs, ex-musulmans, etc. Leurs anciens co-religionnaires auront interdiction de conserver par devers, eux, les noms des personnes ayant renié les dogmes révélés. il y a les mots et les actes. Cet appel européen constitue de fait la seule action concrète et réelle en défense des apostats, de tous les apostats, quelle que soit leur religion d'origine. Il vise à protéger toutes les personnes qui ont soit changé de religion, soit renié une religion, et ce par une démarche basée sur la stricte égalité entre les personnes concernées et leurs convictions, sans aucune dimension de discrimination ou de xénophobie envers des individus ou une religion particulière. Si nous obtenons cette demande, celle-ci constitue de fait et de droit une protection pour tous les Européens et les résidents qui veulent changer ou se retirer de leur appartenance religieuse qu'on leur a souvent imposée dans leur enfance. Chacun est donc face à ses responsabilités. Quel militant, quelle association de la laïcité militante ou de l'athéisme pourrait accepter un tel privilège religieux exorbitant du droit commun et qui remet en cause le principe fondamental de l'égalité et du respect de la liberté de conscience? Cet appel se situe donc très clairement dans la défense de la laïcité qui garantit la liberté de conscience et son respect absolu. Il a recueilli en quelques jours des centaines de signatures de plusieurs pays, dont les organisations suivantes. L'Association nationale Giordano Bruno, Libre Pensée Italie. Nous aurons l'occasion de parler également de Giordano Bruno dans une prochaine chronique. Association madrilène des athées et des libres penseurs, Espagne. Association internationale de la libre pensée. Fédération humaniste autrichienne. Bureau européen de coordination de la libre pensée. Union des athées et des libres penseurs de Catalogne. Fédération nationale de la libre pensée, France. Irlande, Humanist Association, Association humaniste de Norvège, Ligue humaniste de Chimay-Momigny, Belgique, Libre Pensée du Luxembourg, les Amis d'Hypati, c'est la Grèce, Cercle de la Libre Pensée, Belgique, Europa Laïca, Espagne, Association pour le droit de mourir dans la dignité, France. On a reçu la semaine dernière Jonathan Denis là, qui a accepté une interview qui m'a semblé effectivement très très intéressante. Ensuite, autres associations. L'obédience maçonnique, le droit humain, France. L'obédience maçonnique de la Grande Loge Mixte de France. Maison de la laïcité de Mons, Belgique. Conseil national des associations familiales laïques, c'est-à-dire le CNAFAL, France. Union des libres penseurs humanistes du Brandebourg, Allemagne. Fédération nationale laïque des monuments, France. Les humanistes évolutionnaires Berlin-Brandebourg, Allemagne. Tendance intersyndicale émancipation, France. Association liberté de conscience, Luxembourg. Association Republica et Laïcité, Portugal. Association internationale des sans-confessions et athéistes, IPCA, Allemagne. Institut de recherche et d'études de la libre pensée, IRELP, France. Collectivo Republicano de Euskal Herria, donc Basque. Voilà, pour information, le réseau laïque européen partage ce combat pour la liberté de conscience et la protection des données personnelles des personnes qui quittent une religion. Les associations qui le composent demandent que les organisations religieuses soient tout simplement soumises au droit commun et respectent les lois sur la protection des données personnelles. Donc le lien vers la pétition donc, de la Fédération nationale de la libre pensée, là que j'ai lu tout à l'heure, ça s'adresse au Parlement européen, et le lien donc, va être mis sur notre site du groupe Fred Zeller. Et donc disons que dans au moins 4 pays, France, Irlande, Espagne, Belgique, des démarches juridiques sont en cours d'examen auprès de la justice européenne sur cette question. Et nous pensons qu'un tel appel représentatif des associations laïques en Europe serait de nature à faire avancer les choses dans le domaine du respect de la liberté de conscience des habitants des différents pays d'Europe. Nous appelons toutes les associations en Europe et pas seulement les pays membres de l'Union européenne. Il y a 27 pays dans l'UE et 46 dépendants du Conseil de l'Europe qui se réclament de la liberté de conscience et de son respect à contresigner cet appel. Et il peut également être signé à titre individuel. Voilà. Donc c'est une déclaration Bureau européen donc de la libre pensée. Donc nous en avons terminé avec cette chronique de ce lundi, donc 13 mai 2024. Je vous propose de nous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Et entre-temps, vous avez toujours à disposition le podcast sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un socle charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouvez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.